Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue donc au 98,5. Avec un matin de pluie, les averses devraient cesser, généralement nuageux par la suite. 12 degrés, c'est à peu près ce qu'on a. Et ça va descendre au cours de l'après-midi pour atteindre 7 degrés. Donc, c'est un rafraîchissement des températures. En soirée, partiellement nuageux. Minimum de 2 pour la nuit et l'aperçu pour le week-end. Demain, ça commence par du temps couvert, un dégagement d'après-midi 8 et dimanche, soleil et nuages avec un maximum prévu de 12 degrés. Avant de regarder les grands titres de ce matin, il y a cette nouvelle qui est tombée hier. Alec Baldwin qui a tué accidentellement une femme, directrice photo, sur le plateau de tournage d'un film. Ça se passe au Nouveau-Mexique, c'est dans le désert, c'est un film western qui est donc en pleine production, ça s'appelle Rust, et Alec Baldwin joue le rôle d'un grand-père qui amène son petit-fils dans une espèce de cavale. Et on n'a pas de détails, la police n'a procédé à aucune arrestation, tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait donc une arme à feu, c'était prévu au scénario, et en principe, tu tires à blanc, sauf que dans ce cas-là, la directrice photo a été touchée. Le réalisateur du film a été touché. Lui a survécu, est aux soins intensifs. C'est pas la première fois que ça arrive dans le film de Crew. On se souvient, il y a plusieurs années, c'était en 1993, l'acteur Brandon Lee était décédé. Il avait reçu une balle au ventre et l'enquête avait permis de démontrer, l'autopsie, là, que la balle était restée bloquée dans le canon et que la cartouche à blanc n'avait que délogé, si on veut, le projectile, et il était décédé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Aucune idée, mais c'est évidemment incompréhensible, parce que c'est de la négligence. On verra pour la suite des choses. Maintenant, on est vendredi, puis je pense qu'on peut résumer la semaine de la façon suivante. D'un côté, le gouvernement du Québec dit aux infirmières, aux éducatrices, aux intervenantes de la DPJ, puis la liste peut s'allonger, là. On a besoin de personnel. On veut vous embaucher. Peut-être que c'est pas clair, peut-être que ça passe mal comme message, mais on a besoin de main-d'œuvre. Puis là, la stratégie qu'on a développée, c'est de vous donner des primes. Pas à tout le monde. Hier, le ministre Christian Dubé invitait les fonctionnaires puis les syndicats à se parler comme du monde, là. Mettons qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation ou un peu de jeu syndical classique, mais je regarde les réactions, là. Prenons le cas des infirmières. Hier, la FIC, puis on avait une présidente locale, là, la FIC estime que le gouvernement du Québec devrait reculer. Et on pense même aller devant les tribunaux pour faire annuler l'arrêt ministériel qui concerne le versement des primes. Puis là, si j'écoute certaines infirmières, c'est comme si les primes, ça n'avait aucun intérêt, aucune valeur. Puis je comprends que la machine l'a sans doute mal expliqué. Puis c'est de trouver une formule qui fait que tu as une prime parce que tu travailles aussi. Dans le cas des éducatrices en garderie, là, les syndicats n'ont pas aimé ça parce qu'ils se sont fait, disons, tasser. Puis on a dit aux employés, même s'il n'y a pas d'entente, on vous donne des grosses augmentations. Souvent, le gouvernement du Québec pense que l'augmentation du salaire, ça fait avancer le monde. La réponse, c'est non. Puis je le vois dans vos commentaires, les gens veulent des conditions, veulent concilier travail, famille, puis concilier travail et vie personnelle tout court, là. Et quand je vois, pour ce qui est des garderies, cette volonté, le plan présenté hier, tu peux pas dire grand-chose de négatif. Tu vas augmenter le nombre de places. Tu vas faire en sorte que le fichier soit réformé pour éviter des inscriptions illégales, pour aider des gens qui sont plus démunis. Mais là, tu veux aller recruter 17 800 éducatrices supplémentaires, dont 14 000 qualifiées. Comment tu vas faire ça? Alors, l'intention est là, le message est extraordinaire. Et c'est comme si, d'un côté, on avait le gouvernement qui dit « Regardez bien, là, je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais plus comment vous approcher. » Puis d'autre part, les syndicats qui se braquent. Puis qui se braquent assez solidement. Qui veulent pas trop changer les procédures, les mécaniques. Alors, je ne sais pas quelle sera la solution, mais disons que réformer le système de santé puis d'essayer d'attirer des gens puis de les garder, c'est pas que la mince affaire. Alors voilà pour ce qui est du réseau de la santé. Peut-être une parenthèse concernant Québec qui, semble-t-il, s'est trompé dans les listes pour vérifier qui dans le réseau était vacciné ou pas. Et vous avez des gens, par exemple, qui étaient pleinement vaccinés, qui ont dû refaire une démonstration. Et quand vous regardez en date du 19 octobre, les gens complètement vaccinés dans le réseau, là, c'est pas loin de 95%. Et ça continue quand même d'augmenter. Il y a toujours une date qui est fixée, mais qui est, avouons-le, théorique, là, du 15 novembre prochain. Puis, juste pour ajouter, quand on parle du réseau de la santé, une étude qui est dans la presse de ce matin, plus de la moitié des travailleurs de la santé ont été victimes d'épuisement professionnel depuis le début de la pandémie. C'est même probablement un peu plus. Trois mois après le début de la pandémie, le pourcentage de gens qui s'étaient épuisés, c'était 52%. Et avant la pandémie, c'était autour de 30%. Et là, on parle de gens qui sont plus que fatigués. Là. C'est pas juste, disons, du surmenage. C'est des gens qui souffrent d'épuisement professionnel, des gens qui sont en détresse psychologique. Alors, les détails dans la presse de ce matin. Maintenant, je veux vous parler un peu de politique. Puis je vais vous donner un exemple ce matin. Hier, avec un ami, on discutait de ça. Tu sais, quand tu mélanges police et politique, c'est jamais bien bon. La ministre Geneviève Guilbeault s'est fait poser des questions à l'Assemblée nationale, puis elle vous fait encore confiance au numéro 2 de l'UPAC qui est pris, visé par le jugement, qui, très clairement, ramasse l'UPAC en disant « Vous avez posé des gestes qui ont défié le système de justice, ça n'a aucun sens. » Et c'est la soif de gagner à tout prix qui vous a mené. Je vous le dis, là, ce jugement-là est dévastateur pour l'UPAC. Et là, Mme Guilbeault, sa réponse est toujours de dire « On a changé le commissaire, puis là, ça va s'améliorer, puis on embauche du monde. Bon. » Hier, c'était un peu moins, une ministre qui défendait l'UPAC. Elle n'a pas trop répondu. Puis en gros, ce qu'elle a dit aux libéraux en parlant de corruption, ben c'est un peu grâce à votre parti que l'UPAC a du travail, finalement. Fait que c'était un peu le genre de discussion. Puis moi, je constate, je n'ai pas beaucoup d'amis en disant ça, il y a plein de gens en politique qui connaissent rien à la police puis qui font toutes sortes de commentaires. Je vais vous faire entendre le leader parlementaire des libéraux, M. Fortin, André Fortin. Hier, nouvelle dans le Journal de Montréal. Qu'est-ce qu'on apprend? Que le SPVM, puis c'est une façon de faire, là, rencontre des mafieux en leur disant « Dis à tes gangs de rue de se calmer le pompon. Faut que ça arrête de tirer. Sinon, on va vous écœurer à l'os. Puis on va vous déranger. » C'est pas nouveau. Ça se fait de temps en temps. C'est une technique. On peut être d'accord ou pas. Et hier, à l'Assemblée nationale, il y a un journaliste qui a demandé à M. Fortin « Qu'est-ce que vous pensez du fait que la police va voir les mafieux pour leur demander de l'aide? » Écoutez bien la réponse.
« J'ai aucun problème avec le fait que la police de Montréal demande à tout le monde de faire attention ces jours-ci, de faire... Bien, peu importe de qui il s'agit, là... Il doit y avoir une conscience envers la sécurité du public ces jours-ci. Je pense que c'est le devoir de tout le monde, qu'on soit un policier, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit impliqué dans des situations comme celle-là ou autres. Tout le monde a un devoir parce que il y a des Montréalais qui ne se sentent pas en sécurité chez eux en ce moment.
Il ne faut pas que tu sois déconnecté un peu de la vie, là. La mafia n'est pas un citoyen corporatif ordinaire. La mafia n'est pas là pour contribuer à régler un problème social. Tu sais, quand il dit « tout le monde doit faire sa part », excusez-moi là, vous êtes mieux de rien répondre que de dire des niaiseries. Parce que on n'a pas à commenter ça quand on est en politique, je pense. Puis surtout pas de cette façon-là, en mettant le crime organisé sur le même pied que n'importe quel citoyen, là. Si le crime organisé intervient, c'est parce que quand il y a de la chaleur comme ça, puis que ça tire, ça dérange les affaires. C'est pas une prise de conscience, là. C'est de même que ça marche. Fait que je suis toujours étonné d'entendre autant de niaiseries concernant la police, les opérations policières venant de l'univers politique. Et je vais dire ça très clairement, depuis quelques années, il y a un paquet de gens qui connaissent rien là-dedans, puis qui se trouvent en poste décisionnel, puis qui se font souvent enfiroiper par la machine. Mais ça, c'est un autre débat. Parlons maintenant rapidement de cette lettre envoyée par les ministres de l'Éducation de France, M. Blanquer, et du Québec, M. Roberge. C'est intéressant, c'est, paraît-il, une initiative de la France. Et là, c'est une lettre contre la culture de l'annulation. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, là, la culture de l'annulation? C'est une tendance à faire disparaître toutes les traces du passé qui dérangent. Alors, des stéréotypes, des formes de discrimination, des livres, comme en Ontario, brûlés par quelqu'un qui se prétendait autochtone, d'origine autochtone, qui ne l'était pas. Alors, cette espèce de maladie qui consiste à tout effacer en pensant que de le faire disparaître, ben, ça va ramener une situation plus juste, plus équitable. Alors que tout le monde sait que le principe est le suivant. Si tu veux effacer, ben, on va oublier. Puis on va oublier des choses dont on aurait intérêt à se souvenir. Et je trouve que c'est une démarche intéressante. Et quand vous lisez la lettre qui parle de ce combat essentiel pour la démocratie, de devenir un rempart contre l'ignorance et l'obscurantisme pour permettre des vrais débats, pas pour à chaque fois qu'on se sente obligé de se la fermer. Puis là, évidemment, arrive le mot « woke » dans la conversation. Puis « woke », d'être éveillé, c'est une bonne chose en soi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont poussé le concept à l'extrême et qui sont devenus des intolérants, puis qui sont devenus tellement intenses que tu peux plus avoir un débat puis discuter. Puis on l'a vu sur les réseaux sociaux, puis on le voit dans les universités. C'est une tendance, évidemment, qui n'a pas de bon sens. Et c'est de cette façon que les deux ministres ont décidé de s'unir. Puis ça arrive à un moment aussi où il y a tout un débat sur le fameux cours d'éthique et de culture religieuse là, qui va être réformé. Puis là, je vois des commentaires ce matin, puis depuis hier, là, de gens qui disent « Est-ce qu'on est en train de vouloir créer le bon citoyen québécois, l'identité parfaite, les valeurs québécoises, puis les autres valeurs, puis c'est quoi ça des valeurs québécoises? » Puis pourquoi se débarrasser d'un cours? J'ai des profs qui m'écrivent, qui le donnent, qui disent « Les politiciens connaissent rien dans ce cours-là. » Puis ils se mêlent de ça, alors qu'au contraire, on est en mesure d'outiller les jeunes d'aujourd'hui. La religion va pas disparaître. Même si t'haïs ça, là, c'est là pour rester. T'es aussi bien d'essayer de comprendre un peu dans quel monde on vit que de vouloir, comme ça, tout balayer. Alors, vous voyez qu'il y a comme des débats assez, disons, de valeur, des débats profonds. M. Trudeau a annoncé hier deux choses. D'abord, le passeport vaccinal, mouture canadienne, qui est exactement la même chose, dans le fond, que le passeport québécois, sauf que vous avez la feuille d'érable, donc le symbole fédéral, et l'argument, c'est de dire, ben, quand vous voyagez, que vous allez dans un autre pays, ben, vous allez pouvoir l'utiliser, et ça va être plus facilement, disons, admis. Est-ce que ça va être facile partout? Ça dépend des pays, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie. Esther le disait tantôt, il y a des pays, on est en pleine crise, puis le retour, malgré quand même niveau de vaccination élevé. Alors, voilà pour le passeport vaccinal. Puis là, on a décidé de donner encore de l'argent aux entreprises, mais pas à toutes les entreprises, puis cibler davantage des compagnies qui sont dans des secteurs vraiment en trouble, puis des gens qui ont vu un net recul de leurs revenus, pas temporaire, là, tu sais, des gens qui l'ont eu sur la gueule, je pense à des organisateurs d'événements. Alors, programme qui va durer encore jusqu'au printemps prochain. Parlons maintenant du débat présenté hier à la télévision, à LCN. Trois candidats, M. Holness, M. Coderre et Mme Plante. C'est sûr que par moments, c'était cacophonique, là. Mais on sent quand même, disons, l'animosité entre les candidats, là. C'est un débat, puis je le dis depuis le début, c'est un débat qui oppose des valeurs différentes. Même si les gens, une fois au pouvoir, finissent par gouverner au centre, mais c'est pas la même vision de Montréal, pense pas. Et hier, on l'a senti notamment sur la question des logements, puis ça donnait un échange qui a un peu dérapé. Écoutez bien ça.
Mais comme on achète des terrains et comme il y a le 2020, ça nous permet de les obliger à créer du in situ.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Quand vous riez, vous êtes nerveuse. Arrêtez. C'est pas vrai. J'ai dit, arrêtez de rire. C'est trop important, l'habitation.
Parce que pour vous, quand on rit, c'est un problème, M. Coderre?
Non, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'administration en place qui a fait en sorte que les gens s'en vont ailleurs parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire.
Bon. Alors, voyez un peu le débat sur l'accès au logement, puis il y a un paquet d'autres débats. Puis là, on est dans le sprint, là. Puis des sondages indiquent que c'est assez serré entre M. Coderre et Mme Plante. Mais tu sais, je vous donne un exemple ce matin de Projet Montréal qui veut à tout prix annoncer quelque chose tous les jours. Une bonne stratégie, des affaires qui sont intéressantes. Puis d'autres, là, tu dis, excuse-moi, là, mais quand t'es rendu avec l'argent des taxes de promettre une boîte de bienvenue pour les bébés, ça, c'est pour attirer les familles à Montréal. Sérieusement, là, j'ai rarement entendu une niaiserie de même. C'est pas la responsabilité de la ville de faire ça. Je comprends que c'est cute, là, puis ça fait un côté très, très humain, là. Mais là, toi, t'arrives en ville, puis ton administration va t'apporter ton bac, puis ta boîte de bébé, c'est un bébé. Avec des petits cossins. Il y a des organismes communautaires qui ont besoin d'argent. Il y a des organismes communautaires qui tentent désespérément d'aider puis qui ont des budgets faméliques. Puis là, c'est ce genre de patente qui va coûter une couple de millions. C'est pas trop. Tu sais, sérieusement, là, ça, c'est vraiment poussé à l'extrême. Quand t'es rendu à annoncer ça, ça fait pas, tellement sérieux. Et juste pour conclure, Edward Rogers a été expulsé comme président du conseil d'administration de Rogers. J'en ai parlé hier matin, c'est une guerre parmi les héritiers de Ted Rogers. Donc, la famille est divisée sur la gestion. Et finalement, il y a un nouveau président du conseil d'administration, Rogers, qui va mettre la main sur Cha. Et c'est à lire dans Le Devoir. Et le lien, je le faisais hier matin, si vous avez du temps libre en fin de semaine, sur Crave et HBO, la plateforme, vous pouvez regarder Succession. C'est la troisième saison. Vous n'avez pas vu, les deux premières sont disponibles. C'est absolument remarquable. C'est l'histoire d'un empire dirigé par un patriarche, inspiré probablement de la famille Murdoch, et qui prépare sa succession comme bien des gens de cette envergure, c'est-à-dire sans trop la préparer, puis surtout en opposant les héritiers. On peut penser aux Rogers, on peut penser à famille Desmarais, mais ce que je veux vous dire, c'est très riche. J'ai pas encore regardé la troisième saison, il y a un premier épisode qui est disponible, mais quand vous voyez justement le lien entre cette fiction et la chicane de famille au sein de la compagnie Rogers. C'est assez intéressant. Pour le réel, là, c'est dans le Globe and Mail.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Québec promet que tous les parents qui veulent envoyer leur enfant en garderie, ben, ils auront une place. La cible, en fait, c'est 37 000 places d'ici 2025. La question, oui, pour la place, Est-ce qu'on aura assez d'éducatrices pour, justement, s'occuper puis encadrer nos enfants? Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est avec nous. Monsieur Lacombe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, la première question, elle est fondamentale, là. Vous cherchez 17 000 éducatrices, 14 000 là, vraiment formées. Comment vous allez faire ça?
Ben, ça fait partie du plan que j'ai proposé hier. Donc oui, c'est vrai qu'il faut construire des CPE, des garderies, mais vous avez raison. Le défi qu'on a devant nous, c'est de trouver la main d'œuvre. Mais pour ça, il y a deux solutions, je pense. La première, c'est de mieux rémunérer les éducatrices. Elles sont pas payées à la hauteur de l'importance du travail qu'elles font. Moi, je pense qu'elles doivent gagner plus. C'est pour ça qu'on fait ce rattrapage salarial qui est actuellement à la table de négociation. 17 % jusqu'à 17 % et vous avez vu qu'on n'a pas attendu la fin des négos pour aller de l'avant. Donc ça, ça fait partie de notre plan. Puis aujourd'hui,
mais les syndicats l'ont mal reçu, là, ça, vous en êtes conscient.
Je sais que les syndicats, un des syndicats l'a mal reçu, l'autre, la CSN, était plutôt favorable en nous disant que c'était un pas dans la bonne direction, mais qu'il fallait continuer de négocier. Ce qu'on fait, on continue la négo. Et ce matin, 10h30, ma collègue Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, va annoncer qu'on bonifie les offres de 17 % qui sont déjà sur la table. Donc, on est sérieux là quand on dit qu'on veut régler ce
attendez,
problème-là.
Attendez, juste une parenthèse. Oui, je comprends. Mais quand vous dites « elle bonifie », ça veut dire quoi? C'est « elle bonifie avant même qu'il y ait une entente négociée », ça s'ajoute aux 17 % ou c'est une offre bonifiée à la table?
Ben, elle va donner les détails ce matin.
Mettons
à
10h30, que,
mais on a déjà dit qu'on bonifierait l'offre qui est actuellement sur la table. Donc, évidemment, par respect, je vais lui laisser faire son annonce ce matin à 10h30. Mais je vous dis ça parce qu'on est sérieux quand on dit qu'on veut régler ce problème-là. Donc, il y a l'augmentation de salaire pour attirer davantage de jeunes femmes, de jeunes hommes sur les bancs d'école en technique d'éducation à l'enfance. Mais il y a aussi dans mon plan 250 millions de dollars pour des mesures pour mieux les former, c'est-à-dire notamment financer un programme d'alternance travail-études où on va rémunérer les jeunes ou les moins jeunes qui veulent faire ce métier-là pour qu'ils puissent décrocher leur diplôme en même temps qu'ils travaillent. Donc, on va les rémunérer pour les journées où ils vont être sur les bancs d'école aussi. Donc, c'est un plan qui est complet. On est sérieux là.
OK. Juste que je comprenne aussi, puis que ça soit clair pour les gens, là, les augmentations de salaire annoncées avant même une entente négociée, là, la machine est en marche. Ça veut dire que les éducatrices qui nous écoutent ce matin vont avoir une augmentation sur leur chèque de paye à partir de quand?
À partir de la mi-novembre, ou à peu près. Donc, c'est sûr que c'est une première. Là, on n'est pas habitué de faire ça. Donc, la machine, comme vous le dites, se met en branle. Mais clairement, là, à partir, disons, de la deuxième ou troisième semaine de novembre, cette augmentation-là, qui va être rétroactive au moment où on a fait l'annonce, en octobre, ben, vont voir cet impact-là sur leur chèque de paye.
OK. Moi, j'ai beaucoup d'éducatrices qui m'écrivent. Puis si je résume un peu le propos... Il y a un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est que oui, elles sont pas assez payées, mais en même temps, il y a une question de qualité de vie. Il y a une question de qualité, on sort toujours conciliation travail-famille, mais conciliation travail-vie personnelle. Il y en a beaucoup qui me disent, là, on n'ira pas à 40 heures par semaine parce que c'est un job s'occuper des enfants, puis quand on a fait 4 jours, là, on est comme à bout.
Je comprends. C'est vrai que c'est un métier qui est exigeant et ça fait partie des discussions qui sont en cours avec la présidente du Conseil du Trésor qui mène les négos. Il n'y a pas d'obligation. Il y a assurément pas d'obligation ou de temps supplémentaire obligatoire comme il y a dans le réseau de la santé. Mais on veut quand même proposer à celles qui acceptent de faire 40 heures par semaine d'avoir une bonification qui est plus importante. Donc, c'est un choix qu'on met sur la table. Pour les autres, il y a aussi un rattrapage salarial. Actuellement, il est à 12 % pour les éducatrices qualifiées, auxquelles s'ajoute un 5 % pour celles qui feraient 40 heures par semaine. Mais on sait aussi que nos infirmières font un travail qui est difficile dans les hôpitaux. Elles font beaucoup d'heures aussi. Donc, ça fait partie des discussions qu'on a à la table avec les éducatrices.
OK. Là, je comprends que le guichet va être réformé. Les parents qui nous écoutent puis qui inscrivent leurs enfants puis qui se disent « je sais même pas ce qui arrive avec ça », puis la vérificatrice qui nous a expliqué qu'il y avait bien des enfants qui avaient pu trouver une place, de façon illégale, là, vous allez garantir aux parents qu'ils vont savoir où ils sont sur la liste et qu'il n'y aura pas de fling-flang.
C'est l'objectif, effectivement. C'est ce que je me fixe comme objectif. Donc, dans le projet de loi que j'ai déposé hier, parce que, bon, j'ai un plan d'action, 45 mesures, 3 milliards de dollars sur 4 ans, mais il y a certaines mesures qui veulent dire qu'on doit changer la loi. Donc, hier, j'ai déposé mon projet de loi, le projet de loi 1 du gouvernement pour compléter notre réseau. Puis là-dedans, effectivement, il y a un article qui va nous permettre de rapatrier le guichet unique au gouvernement. Et ensuite, ce que je souhaite, c'est que les parents puissent connaître leur rang sur la liste d'attente des différents CPE et garderies et aussi qu'ils connaissent un peu l'horizon de temps dans lequel ils vont pouvoir obtenir cette place-là pour qu'il y ait une prévisibilité. Parce que je sais que c'est pas facile.
Okay.
Moi, M. Arcand, là, il y a 2 ans, mon plus jeune est encore sur cette liste-là, la place 05. Je sais à quel point c'est compliqué. Je sais à quel point c'est frustrant aussi de pas comprendre à quel moment on va recevoir un appel. Il y a une perte de confiance. Donc, on veut travailler avec la place 05 pour rapatrier ça au gouvernement.
OK. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a effleuré la question du coût par jour pour les parents. CPE, on le sait, là, c'est 8,50. Pour ce qui est des garderies où les parents payent, là, ça varie, ça peut 40, 50, 60. Je comprends qu'il y a des crédits d'impôt. Oui. Vous avez annoncé des mesures, là. Si je paye 8,5 pour aller au CPE, avec les mesures que vous avez annoncées, le parent va payer environ combien? L'écart va être amené à quoi?
Ben, on veut rétrécir cet écart-là. Donc, encore une fois, dans le plan d'action que j'ai déposé hier, on indique qu'on va aller de l'avant avec une modification du.
Mais c'est quoi votre cible? Ça serait quoi la différence entre un CPE puis une garderie où le parent paye?
Là, c'est le moment peut-être un peu plus plate où je dois vous dire que ça va être dans la mise à jour économique et que je peux pas vous dévoiler ces chiffres-là aujourd'hui.
Mais le savez-vous? Mais vous le savez, ça va être quoi?
Oui, on a établi ça avec le ministre des Finances qui va en faire l'annonce à la mise à jour économique. C'est pas habituel non plus qu'on vous dise d'avance qu'il y a dans la
non,
mise
non,
à
non,
jour
mais
et qu'on s'avance autant.
Je veux juste savoir une chose, OK? Parce que l'écart est important actuellement.
Oui.
Là, vous allez rétrécir de façon cosmétique ou ça va être solide? Je vous demande pas le chiffre, là, juste savoir
non,
si c'est
non,
sérieux
pas
ou pas.
Non, pas du tout cosmétique. Je vous dis, vous avez ma parole, là. C'est un geste concret. Le plan d'hier, là, c'est un plan costaud. Ben, je peux vous dire que la modification du crédit d'impôt, elle sera pas cosmétique. Là, je m'arrête là. Parce
okay,
que sinon,
okay.
je vais me faire chicaner okay. par mon collègue des finances, mais ce sera pas cosmétique.
OK. L'autre chose, les garderies privées non subventionnées. Parce que il y a beaucoup de modèles, là. Il y a en milieu familial, les garderies privées non subventionnées, privées subventionnées, les CPE. Je vous donne un exemple, là. Quelqu'un qui m'écrit qu'il y a une garderie qui dit là, on a 20 places de libre, mais les parents trouvent ça cher. Il y a une autre qui m'écrit en disant, il y a des parents qui me quittent, pas parce qu'ils aiment pas ce qu'on fait, mais parce que le CPE, c'est moins cher. Allez-vous, entre guillemets, rapatrier des places du privé non subventionné vers le public? Allez-vous faire disparaître certains modèles? C'est quoi votre intention?
Ben, dans le grand chantier, pour les familles que je présentais hier, il y a une section où on parle de ça, où on dit il faut rétablir une plus grande équité financière. Donc oui, on vient d'en parler, on va modifier le crédit d'impôt. Donc ça, c'est la solution immédiate, qui aura un effet tout de suite lorsque ce sera annoncé. Mais ensuite, je l'ai souvent dit, M. Arcand, moi je pense que ce qu'il faut viser, c'est un réseau à terme là qui sera subventionné pour toutes les garderies qu'ils souhaitent et tous les parents qu'ils souhaitent. Des places à 8,50 $, je pense que c'est ce qu'il faut viser à long terme. On a commencé, on est le premier gouvernement à le faire, à transformer des garderies non subventionnées à 40, 50, 60 $ par jour en garderies à 8,50 $. Mais le projet pilote, là, il est actuellement en cours. Il va se terminer dans quelques mois. On va en faire l'analyse, là. On avait 3 500 places à faire un peu partout au Québec. Et à la suite de ça, ben, on aura nos conclusions. Et je l'écrivais dans mon plan d'action hier. Ben, on va ensuite de ça donner notre plan de match pour la suite des
okay,
choses. Mais actuellement, c'est difficile parce qu'on n'a pas encore les conclusions.
Je comprends, mais l'objectif, c'est de faire, en fait, d'éliminer des places dans les garderies privées non subventionnées. Ce que vous voulez faire, c'est qu'il y ait un tarif puis que le parent québécois paye un montant, peu importe l'endroit où l'enfant se fait garder, là.
Ben moi, je suis ouvert à ça. Ensuite, sur quel horizon on fait ça? Vous avez vu actuellement, bon, on a fait 3 500 places sur 70 000. C'était voulu parce qu'on voulait voir de quelle façon est-ce que ça allait se dérouler parce qu'on n'a jamais fait ça depuis 25 ans. Puis c'est compliqué. Ça paraît simple, mais c'est compliqué. Donc, on
okay.
veut s'assurer de bien le faire. Mais si vous me demandez mon avis comme ministre de la Famille, philosophiquement, là, moi, je pense que c'est ça vers quoi il faut aller. À quelle vitesse? Ben ça, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir, mais entre-temps, on va poser un geste immédiat en modifiant le crédit d'impôt.
OK, de façon plus générale, vous devez trouver des éducatrices, les former puis faire en sorte qu'elles veulent travailler dans le réseau. Votre collègue à la santé, il cherche des infirmières. Vous dites, j'augmente les salaires. Lui, il dit, moi, je donne des primes. Pourquoi on dirait que ça bloque? C'est-à-dire que, je vais vous résumer la phrase qu'une infirmière m'a envoyée, c'est comme si le gouvernement pense qu'en mettant bien du cash, on va régler tous les problèmes, alors que pour des infirmières, il y a des petits détails, là, que visiblement un manque de compréhension entre les fonctionnaires puis les syndicats. Ça a l'air que le message passe, mais que c'est difficile de convaincre quelqu'un d'aller travailler dans le réseau de la santé puis dans les garderies.
Ben, vous avez raison qu'on a un défi qui se ressemble, mais en même temps qui est tellement différent.
Oui.
Je vois là que dans notre réseau, le problème principal, c'est que nos éducatrices sont pas assez payées. Dans le réseau de la santé, l'enjeu il est différent. C'est davantage un enjeu d'organisation du travail puis de qualité de vie là. Tu sais, au travail, ça, on en a beaucoup parlé. Mais dans le réseau des services de garde, M. Arcand, les éducatrices gagnent pas assez. Leur salaire est pas assez élevé.
C'est clair.
On peut pas convaincre une jeune femme, un jeune homme. Moi, en tout cas, là, j'aurais de la difficulté à convaincre mes enfants de s'inscrire en technique d'éducation à l'enfance avec le salaire que les éducatrices gagnaient avant la négo qui est en cours aujourd'hui. Là. Elles méritent plus que ça. Donc, et c'est ce qu'elles nous disent. Le salaire, là, c'est l'élément principal. Donc, c'est là, je dirais, la différence peut-être avec le réseau de la santé. Et ça, on va le régler. On est en train de le faire avec le syndicat.
Parfait. Merci, M. Lacombe. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Mathieu Lacombe est le ministre de la Famille.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, on a vu les ministres français et québécois de l'Éducation publier un texte commun pour dénoncer ce qu'on appelle la culture de l'annulation. Le ministre Jean-François Roberge est avec nous. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourquoi ça vient maintenant? Est-ce que je comprends que c'est votre collègue français, Monsieur Blanquer, qui a initié ce projet-là? Et pourquoi vous y avez adhéré?
Bien, ça fait quelques années que M. Blanquer et moi, on discute, on collabore. Je l'avais rencontré en France. Et puis, on a échangé à plusieurs reprises au cours de la pandémie pour relever les défis là, de la scolarisation en temps de pandémie, scolarisation à distance. Et puis, il y avait pas l'anniversaire, mais je vous dirais, ça faisait un an que l'enseignant français Samuel Paty a été assassiné parce qu'il défendait la liberté d'expression. Il a voulu communiquer avec moi, M. Blanquer, pour qu'on en discute, pour voir comment on pouvait ensemble faire un geste fort. Et puis, au fil des discussions, on a décidé de signer cette lettre ouverte pour essayer, je dirais, de faire reculer cette culture du bannissement, puis d'empêcher l'obscurantisme d'entrer dans nos écoles.
Bon, ce que faut que les gens comprennent, quand vous parlez, vous, de culture de l'annulation, là, c'est tout ce qu'on a vu, des livres brûlés, des livres interdits, des profs qui peuvent pas enseigner comme ils le souhaitent. C'est l'ensemble de ces manifestations qu'on a vues là, dans les dernières années.
Exactement. Les statues déboulonnées aussi. Moi, je pense que s'il y a une statue qui présente un personnage qui est controversé, un personnage important de l'histoire, il ne doit pas nécessairement être célébré pour tout ce qu'il a fait, mais voyons cette statue. Moi, j'imagine un enseignant faire une sortie scolaire, voir un lieu historique, présenter cette statue, en parler avec les élèves, pas pour célébrer sa grandeur puis souligner avec aveuglement les bons comme les mauvais coups, mais pour en parler. Et puis la censure, c'est le contraire de la pédagogie. Il faut permettre à nos jeunes d'aborder les sujets, tous les sujets, même les plus sensibles. On a ramené l'éducation à la sexualité après avoir fait l'erreur de sortir l'éducation à la sexualité parce qu'on doit être capable de préparer nos jeunes à exercer leur pleine citoyenneté.
Est-ce que la nouvelle cible de votre gouvernement, ce sont les woke?
On ne parle pas d'une cible. Moi, je vous dirais que ce que je veux, c'est protéger nos écoles, protéger nos classes, libérer la parole, puis envoyer un message fort. Il ne faut pas que les gens aient peur de dire tel ou tel mot, d'aborder tel ou tel sujet dans les classes du Québec.
Mais
c'est
actuellement,
on doit se protéger contre ça.
Okay.
C'est notre devoir.
Est-ce que vous évaluez qu'actuellement c'est un problème ou vous pensez que cette vague, ce courant va nous toucher?
Je pense que c'est un problème. Écoutez, comme on l'a vu, là, il y a un enseignant qui s'est fait assassiner en France, en Ontario.
Mais je parle au Québec.
Au Québec, pas besoin de chercher. Il y a moins d'un an, la commission scolaire anglophone, S.T.B. Pearson, a censuré un livre caché, a posé un autocollant sur une page, un livre qui était utilisé depuis un certain temps, parce qu'il y avait le titre d'un livre, il y avait le fameux mot en N, puis il fallait même pas que les élèves puissent le voir, comme si ils allaient être trop offensés, puis comme si l'enseignant n'était pas capable de mettre les choses en perspective. Donc, on a empêché l'enseignant d'enseigner, on a empêché les élèves d'aborder un sujet difficile, on a préféré l'effacement, le bannissement des mots. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Ça ne doit plus arriver, M. Arcand.
OK. Dans le discours d'ouverture de session cette semaine, on a appris que le cours d'éthique et de culture religieuse allait disparaître et sera remplacé par une espèce de cours là sur la culture et la citoyenneté québécoise. Moi, j'ai des profs qui me disent, ils comprennent pas trop parce que c'est déjà enseigné la culture et la citoyenneté québécoise.
Monsieur Arcand, je connais très bien le programme de formation à l'École québécoise pour l'avoir moi-même enseigné. Je connais le cours ECR, éthique et culture religieuse, pour l'avoir enseigné. On peut améliorer notre réseau scolaire. Je pense qu'on est tous d'accord. On peut améliorer notre programme. Et bien que la notion de dialogue, d'éthique, de pensée critique est présente dans le cours éthique et culture religieuse en ce moment, il y a quand même des travers importants. Beaucoup de personnes ont vu que le cours en ce moment propageait des stéréotypes, que les manuels montraient tout le temps des femmes voilées quand on parlait des musulmans. On sait que c'est pas vrai. C'est un cours qui est redondant. Donc, il y a des choses à changer, puis on est en train de le faire.
Mais en terminant, là, je lisais Isabelle Haché ce matin, puis son titre, c'est « Comment former de bons Québécois ». C'est comme si l'État veut établir les valeurs, puis vous allez vous coller à ce moule-là, alors qu'en même temps, vous me parlez de la liberté d'expression puis de la diversité des points de vue.
Mais préparer à l'exercice d'une citoyenneté, M. Arcand, c'est préparer les jeunes à débattre de tous les sujets, sans censurer les manuels, sans censurer les enseignants. C'est enseigner les bases du système juridique. Je pense pas qu'il y a lieu là de voir une propagande ou un agenda caché. On a fait nos devoirs, M. Arcand, pour préparer ce cours-là. On a consulté plus de 30 000 Québécois dans une consultation en ligne. On a fait 3 forums avec des experts. Je pense que les gens vont être rassurés dans quelques jours, là, quand ils vont voir le contenu du cours. Je comprends que certains s'inquiètent à ce moment-ci, mais les gens seront rassurés. On fait une démarche qui est très, très sérieuse.
Parfait. Merci, M. Roberge. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de l'Éducation.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé hier la première mouture, si on veut, du passeport vaccinal canadien qui va permettre aux gens qui le souhaitent là, de voyager à l'étranger. Bon, il y a beaucoup de points encore à éclaircir, de fils à attacher. Et en gros, c'est un document qui est émis par la province, mais cette fois-là avec la feuille d'érable pour montrer que c'est aussi une preuve fédéral. Le ministre Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, est avec nous. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, des questions très pratiques des auditeurs, là. Pour aller chercher ce passeport-là, il faut aller sur le site, par exemple, le Québec, du Québec. Et donc, on va avoir le passeport vaccinal québécois puis le passeport vaccinal canadien. On va avoir les deux?
Oui, effectivement. Dans certaines provinces, il y en a juste un. Il y a juste une certification vaccinale, celle qui a été annoncée hier par le gouvernement canadien. Dans d'autres provinces, comme le Québec, il y en a deux. Donc, une qu'on peut utiliser ici même au Québec et une qu'il est préférable de télécharger si on souhaite voyager à l'extérieur.
Avec les mêmes informations sur les deux?
La technologie est légèrement différente. C'est une technologie qui est reconnue à l'international. On appelle ça une technologie carte santé smart, là. Donc, ça permet à des partenaires étrangers de davantage reconnaître et donc d'approuver les documents qui sont présentés lorsqu'on voyage. C'est uniforme aussi parce que ça permet à l'étranger là, de voir que c'est un document canadien, donc qui a été reconnu et livré par le gouvernement canadien. On sait là, évidemment là, que c'est une fédération, donc les gens savent à l'étranger que c'est une fédération dans la plupart des cas, mais préfèrent avoir un document standardisé, uniforme du gouvernement canadien lorsqu'on voyage à l'étranger.
OK. Dans l'état actuel des choses, et je pense principalement là, à l'ouverture de la frontière avec les États-Unis là, le 8 novembre, est-ce que je comprends, là, puis si la question m'est souvent posée, là, des gens qui ont eu un vaccin AstraZeneca, qui ont un Pfizer, est-ce que c'est considéré comme une preuve de double vaccination? Puis est-ce que les Américains vont reconnaître ça?
Les Américains reconnaissent tous les vaccins que nous avons ici au Canada, y compris les mélanges de doses. Donc, comme vous l'avez dit, moi-même, j'ai été vacciné avec un AstraZeneca au début, puis ensuite Moderna. Donc, le mélange de deux doses, deux types de vaccins, est reconnu par les Américains.
OK. L'autre question, puis vous allez voir, c'est très terre-à-terre. Des gens qui, par exemple, ont l'habitude d'aller à Burlington, passer la frontière, aller magasiner une journée, revenir... Est-ce qu'ils vont devoir passer des tests de COVID? Est-ce que s'ils ont la double preuve de vaccination, ça va suffire? C'est quoi l'état de la situation?
Alors, les Américains, évidemment, ont leur propre politique. Ils demandent, comme nous le faisons, une double vaccination. Et avec la carte que j'ai parlé, la certification vaccinale canadienne, ça va améliorer la facilité et accroître la confiance là, pour voyager à l'extérieur, y compris aux États-Unis. Par contre, lorsqu'on revient au Canada, il faut, comme Canadien, on a toujours le choix, on a toujours la possibilité de revenir, qu'on soit vacciné ou non. Mais si on n'est pas vacciné, on doit évidemment, faire la quarantaine de 14 jours qui a toujours été imposée. Même si on est vacciné, on doit produire un test PCR moléculaire. Maintenant, si on part juste pour quelques heures ou pour quelques jours, deux jours par exemple, on peut faire ce test PCR avant de voyager aux États-Unis parce que le test doit avoir été fait au maximum 3 jours avant de revenir au pays.
OK, mais mettons, là, je vous donne un exemple bien concret. Là. J'ai un chalet dans le bout de Burlington, puis je descends là toutes les fins de semaine. Ça veut dire qu'à chaque fois que je reviens, il faut que j'aille mon test PCR négatif.
Tout à fait.
C'est quand même quelque chose?
Oui, ben c'est la situation maintenant. Évidemment, la situation continue de s'améliorer. On s'attend à ce que l'Agence de la santé publique, avec Immigration, avec Affaires étrangères, revoie cette politique dans le temps, mais pour l'instant, c'est ce qui s'applique.
Et est-ce que le passeport, à votre connaissance, va être reconnu dans la plupart des pays ou s'il y a des restrictions compte tenu de l'évolution du profil sanitaire de certains pays?
La réponse est oui, parce que faut être prudent parce que chaque pays prend ses propres décisions. Mais cette technologie dont on parlait tout à l'heure, la technologie santé smart, donc la façon dont cette information est inscrite, la capacité qu'ont les pays étrangers de pouvoir la valider, s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude, que c'est effectivement quelque chose qui a été validé par le gouvernement canadien. Donc, tout ça est largement reconnu à l'étranger. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on peut, et c'est ce qu'on a commencé à faire il y a déjà quelques temps, évidemment, on peut entrer en contact avec nos partenaires étrangers, leur dire, écoutez, voici, c'est ce qu'on va utiliser, nous, comme Canadiens, comme gouvernement canadien, pour faciliter votre reconnaissance du statut vaccinal des Canadiens. En Europe, ils sont très à l'aise avec cette technologie, aux États-Unis aussi. Et on croit là, que c'est la bonne technologie vers laquelle vont s'aligner la plupart des pays au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
OK. Là, on parle des voyages à l'étranger, mais on comprend aussi que pour les voyages à l'intérieur du Canada, entre les provinces, par exemple, en avion, en train, ça prend aussi. Ça va prendre, il y a un calendrier, mais la double vaccination.
Tout à fait. Et bon, pour valider, pour démontrer cette double vaccination, au Canada, bon, on a moins d'enjeux là, d'information. Donc, les gens, dans la plupart des cas, vont pouvoir continuer d'utiliser, s'ils le souhaitent, le certificat québécois. Donc, je pourrais me déplacer en Ontario, en Alberta, en avion, puis arriver à l'aéroport avec mon certificat québécois. Mais si j'arrive avec mon certificat canadien, c'est encore plus simple dans un certain sens, puisqu'ils vont reconnaître que c'est un gouvernement canadien qui a validé l'information du gouvernement du Québec.
Merci, M. Duclos. Au revoir.
Merci à vous et bonne fin de journée à tout le monde.
Jean-Yves Duclos est le président du Conseil du Trésor. Alors, vous voyez, les modalités, et on pense beaucoup à la frontière américaine, mais le cas que j'ai soumis est pas rare là, de gens qui vont aux États-Unis puis qui n'ont pas été durant la pandémie là, parce que c'était pas considéré comme essentiel. Mais l'obligation du test négatif, peu importe le temps que tu passes, est toujours là. Donc, t'as beau être doublement vacciné, si tu vas aller à ton chalet, ça va te prendre des tests. Puis, si tu viens retourner dans deux semaines, ben, ça va être la même chose.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler du droit de la famille. Ça, c'est un dossier qu'on aborde souvent à l'émission. C'est attendu, la fameuse réforme, parce qu'on a des lois poussiéreuses au Québec. Le droit de la famille a besoin d'être, comme on dit, nettoyé un peu. Le ministre Jolin Barrette a présenté un premier volet. J'en parle avec Maître Sylvie Schirm. Maître Schirm, bonjour.
Bonjour.
Bon, c'est un volet quand même intéressant là, qui concerne les mères porteuses. Il y a d'autres aspects, mais il faut dire là que, puis on va prendre au moins un petit moment ce matin pour le souligner, vous avez travaillé fort dans cette direction-là là, pour amener des réformes avec aussi le professeur Alain Roy.
Définitivement, et je tiens à souligner le travail, la persévérance et l'acharnement du docteur Alain Roy qui travaille dans ce dossier-là, sur la réforme pour les familles québécoises depuis des années. Alors, on ne sera pas en train de se parler aujourd'hui de la réforme. Il n'y aura pas eu de réforme sans lui. Alors, je pense qu'il faut vraiment souligner le travail incroyable qui est fait depuis 2015, qui a produit son rapport, puis 2013. Alors, ça fait presque 10 ans qu'il essaye de faire avancer toute la question du droit de la famille. Alors, un gros bravo à lui ce matin.
OK. Qu'est-ce que je dois retenir dans ce qu'il y a dans le projet de loi, là, notamment pour ce qui est des parents qui veulent se tourner vers une mère porteuse?
Bon, mère porteuse encadrée. Donc, c'était interdit, c'était un contrat de nullité absolue jusqu'à... Ça l'est toujours jusqu'à ce que le projet de loi soit adopté. Maintenant, on va ouvrir la porte à cette possibilité-là. Donc, les couples gays ne seront plus obligés d'aller en Ontario pour faire un contrat avec une mère porteuse. Le contrat est encadré, c'est-à-dire le contrat doit être notarié, il doit être fait avant la conception de l'enfant et tout le monde doit avoir une rencontre avec un psychologue ou quelqu'un dans le domaine de la psychologie pour comprendre les implications de cette démarche-là. La mère porteuse garde le contrôle total, l'autonomie totale sur son corps. Elle peut décider en tout moment de mettre fin à la grossesse et elle ne donnera pas son consentement à céder la filiation avant 7 jours après l'accouchement, mais elle doit le donner dans les 30 jours. Donc, elle a quand même une semaine après l'accouchement. On ne peut pas exiger qu'elle donne son consentement avant ces 7 jours-là pour donner le temps là, à tout le monde.
OK, mais ça veut dire qu'elle pourrait porter l'enfant donc pendant les 9 mois avec l'intention, parce qu'elle participe à ça, de donner l'enfant à la naissance. Et elle a une semaine pour changer d'idée, là, ça veut.
Exactement. Elle a une semaine pour changer d'idée et elle doit donner son consentement dans les 30 jours. Alors, okay. Elle a effectivement une semaine pour changer d'idée et elle peut changer d'idée. Alors, puis il n'y a pas de recours là, contre elle si elle change d'idée. En plus, elle ne sera pas rémunérée, mais on va payer ses frais médicaux. On peut payer une perte de revenus. Par exemple, un petit peu comme on fait dans les cas d'accident de travail, on va prendre les mêmes barèmes. Alors, si elle a une perte de revenus à cause de la grossesse, on peut la compenser pour ça. Ça va faire partie du contrat. Ainsi que les frais, vitamines, traitements, etc., dont elle a besoin pendant la grossesse, mais elle n'est pas rémunérée.
OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi à part ça là, que les auditeurs doivent savoir?
Beaux-parents ont maintenant le droit de demander des contacts, des droits d'accès à l'enfant, c'est-à-dire le couple se sépare. Monsieur, pour prendre cet exemple-là, il n'est pas le père de l'enfant, mais il joue un rôle important, significatif dans la vie de cet enfant-là. Mais ce beau-parent-là peut maintenant aller demander des contacts avec l'enfant. On va tenir compte, par exemple, de la volonté de l'enfant d'avoir ce contact-là. Quand l'enfant a 14 ans et plus, c'est lui ou elle qui va décider est-ce qu'il maintient les contacts avec cette personne significative. Mais maintenant, c'est légiféré, un peu comme les grands-parents. Alors, on va tenir compte, évidemment, dans le meilleur intérêt de l'enfant. Violence familiale. On tient compte maintenant, dans la définition du meilleur intérêt de l'enfant, s'il y a de la présence de la violence familiale. On va empêcher un conjoint violent qui se représente seul à la cour de contre-interroger son ex sans avocat, parce que c'est ça qu'on voyait dans des procès en droit de la famille. La victime se fait contre-interroger par son agresseur qui se représente seul, qui n'a pas d'avocat. C'est une tactique qu'on voit souvent dans ces dossiers-là. Alors, on a mis fin à ça. Le juge peut ordonner que pour cette partie-là du procès, il y a un avocat qui fasse le contre-interrogatoire. Alors, on a tenu compte aussi de l'autorité parentale doit être exercée sans violence aucune. Alors, on souligne encore l'importance de radier cette violence familiale familiale et d'en tenir compte quand on évalue le meilleur intérêt de l'enfant. On a aussi donné la présomption de paternité pour les conjoints de fait. Donc, c'est les cas des, on a vu des mères qui ont accouché suite au décès de leur conjoint et comme ils n'étaient pas mariés, il n'y a pas de présomption. Donc, elle devait faire toutes sortes de recours pour faire reconnaître que son conjoint décédé était le père de l'enfant. Ça, c'est réglé. On a une présomption que vous êtes conjoint de fait, vous accouchez d'un enfant, bien, il y a une présomption que le père, là, le conjoint, c'est le père de l'enfant. Alors, beaucoup de choses
bien, je comprends. Sur l'assiette. Puis, il y aura d'autres volets qui vont venir, mais un constat, il était temps qu'on bouge, là, sérieusement. De se moderniser, c'est le minimum. Puis bravo à vous, puis bravo à Maître Roy là, d'avoir poussé ça dans la bonne direction.
Merci beaucoup.
Au revoir,
merci
Maître Schirm. Maître Sylvie Schirm, qui est avocate en droit de la famille. C'est vrai que c'était attendu. Les gouvernements n'étaient pas trop pressés. Mais vous voyez, ça a l'air de rien, là, mais ces changements-là affectent la vie de pas mal de monde. Puis il y a d'autres mesures aussi qui s'en viennent parce que le modèle familial au Québec n'est pas unique. Là. Il n'y a pas un modèle. Il y a plusieurs façons d'être en couple. Il y a plusieurs façons d'avoir des enfants puis d'être en famille.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.